n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI. Et c'est avec vous, Jean-Philippe Moinet. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe Le Caplain.
Directeur de la revue Civique et auteur du livre intitulé Un journal sous influence, un livre paru aux éditions des Ailes Rebelles. Alors, l'ampleur de la victoire de Donald Trump s'est confirmée ces dernières heures avec la prise de l'Arizona, ce qui permet au milliardaire républicain de remporter un carton plein dans les États clés à cette présidentielle que vous avez pu vivre sur RFI. De cette élection triomphale, il en a bien sûr été question dans toutes les émissions politiques aujourd'hui. À noter que l'ensemble des invités étaient membres du camp présidentiel. Ce sont les hasards de la programmation. Le ministre de la Justice, lui, était sur l'antenne de France Inter. Pour lui, Donald Trump a fait la différence en s'attachant les classes moyennes.
Le populisme peut donner des résultats dangereux au regard de la démocratie. Mais il faut reconnaître ce succès de Donald Trump. Il a su parler. C'est la première fois depuis longtemps que non seulement il a eu les grands électeurs, mais également le vote populaire. Vous savez, j'ai le souvenir aussi de l'échec malheureux de Lionel Jospin, qui pourtant partait à une élection présidentielle avec un excellent bilan économique, et ça n'a pas suffi.
Parallèle entre Lionel Jospin et Joe Biden et son bilan économique. Écoutez ce qu'en a dit Roland Lescure, député Ensemble pour la République des Français établis hors de France, vice-président de l'Assemblée nationale, c'était sur France 3, en fin de matinée, concernant la nouvelle donne politique et économique.
Je pense qu'on est dans une guerre industrielle, avec la Chine depuis longtemps, et avec Donald Trump au pouvoir, avec les États-Unis. Des tarifs douaniers, on en parlera sans doute, des subventions massives à l'industrie américaine, qui risquent de mettre en danger nos entreprises, on en parlera sans doute aussi. Ça veut dire quoi sur les relations entre les pays? D'abord, il faut que l'Europe soit unie. L'Europe, elle n'avance jamais aussi bien que quand elle est dos au mur. Et là, elle est dos au mur. Il y a ce qu'on appelle le rapport Draghi, qui vise à investir des centaines de milliards d'euros dans l'innovation, dans l'industrie, dans la décarbonation, qui permet de réconcilier économie et écologie. Là-dessus, il y a un accord de principe. Le sujet, c'est comment on finance. Et ça, c'est pas gagné.
Annie Genevard est-elle ministre de l'Agriculture, secrétaire générale des Républicains? Elle dit ce qu'elle craint pour la France avec l'élection du milliardaire.
Entre les annonces de campagne et la réalité de ce qu'il mettra en œuvre, nous aviserons. Mais il faut bien voir que l'agroalimentaire représente 4% dans le déficit américain. Donc c'est relativement peu. En revanche, les mesures douanières qui sont annoncées seraient en effet très préjudiciables. Par rapport à ça, il ne faut pas avoir de naïveté. Quand Donald Trump dit « America first », nous, on doit dire « Europe first », « France first ». Il faut que l'Europe se protège et il faut qu'elle réponde. Pour ce qui est des droits de douane, on ne peut pas se laisser ainsi intimider ou déposséder de nos propres productions. Et il faut répondre, c'est une agression.
Autre prise de parole, celle de Éric Zemmour, le président du parti Reconquête sur RTL, analyse les résultats dans les deux camps, Trump, Harris, a écouté aussi comme un constat de ce qui se passe en France.
La victoire de Donald Trump, c'est la victoire contre la mondialisation et contre ses effets délétères à la fois sur l'immigration, sur la désindustrialisation, donc sur l'appauvrissement de la classe ouvrière et même des classes moyennes. Trump demande un grand protectionnisme en vérité. Kamala Harris incarne toutes les révolutions qu'ont entreprises la gauche depuis les années 60. L'ouverture des États-Unis à une immigration mondiale, la destruction dans les universités, dans les écoles de tout l'héritage occidental, gréco-romain, judéo-chrétien, la détestation de l'homme blanc, etc. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Et troisième révolution, à partir des années 90, la mondialisation, la délocalisation de toutes les entreprises qui étaient en Amérique et en Europe, vers la Chine, qui devient l'atelier du monde, et donc la prolétarisation de toute la classe ouvrière.
Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique. Cette fameuse classe moyenne, on a l'impression que désormais c'est elle qui fait les élections. En tout cas, c'est celle que les politiques courtisent.
Oui, c'est depuis longtemps considéré comme le centre sociologique des grands pays. C'était l'expression de Valéry Giscard d'Estaing, ça ne date pas d'hier. Mais que la classe moyenne, c'est finalement la majorité des Français, des Américains et de nos voisins européens. Donc c'est vrai que cette classe moyenne est traversée par des doutes. On est dans un monde brutal. Les confrontations des blocs existent. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un leader populiste qui a quand même 23 chefs d'inculpation contre lui, qui a réussi sur ce sentiment-là, qui est un sentiment qui est réel, mais qui est aussi partiel par rapport aux réalités économiques, parce que les États-Unis restent un pays très riche, qui va plutôt bien. Il y a 3 points de croissance qui fait rêver beaucoup de pays européens, et la France en particulier. Et pour autant, il a réussi à capitaliser sur ce sentiment d'agression extérieure en utilisant le filon malheureusement historique assez éprouvé et actuellement d'ailleurs testé à échelle d'un grand pays comme les États-Unis, à savoir le filon de la xénophobie qui a fonctionné avec des propos insensés pour les Européens et pour les Français en particulier. Ces étrangers qui mangeraient des chats et des chiens, des millions de personnes, a-t-il annoncé, seraient déportées, a-t-il déclaré, sans aucun scrupule. Et pour autant, il a été élu. Donc ça a beaucoup d'enseignements pour notre pays, ouais, même s'il y a beaucoup de différences aussi avec nous.
Parce qu'on dit toujours, hein, quels que soient les domaines, que ce qui se passe aux États-Unis, 10, 15 ans après, ça arrive en France. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une radicalité pareille dans le paysage politique français dans les années à venir.
Alors, on voit les radicalités à l'œuvre en Europe et en France déjà, dans notre paysage politique. Ceci dit, je pense que ce qui est arrivé aux États-Unis peut difficilement se transposer, en tout cas dans un court et moyen terme, en France. Pour 2-3 raisons qui me semblent pas forcément évidentes pour tout le monde, mais qui sont d'ailleurs le reflet d'un sondage qui a eu lieu le lendemain de l'élection de Donald Trump par Harris Interactive, qui fait que 21% seulement des Français espéraient la victoire de Trump, donc 1 sur 5 seulement, et 69% des Français ont une mauvaise image de lui. Pourquoi ? Pour 2-3 raisons que je vais essayer de résumer. La première, c'est que cette culture du milliardaire est proprement américaine.
Milliardaire. En France, l'argent est mal vu, donc oui, c'est réglé.
Ça paraît une différence majeure.
Deuxième raison.
Deuxième raison, le principe d'égalité, qui a été fondateur de la République française, historiquement par de nombreux combats et par des arsenaux juridiques précis, fait que, par exemple, le rapport aux femmes est très différent, le rapport à l'égalité homme-femme. Et ce qu'a pu dire et montrer ostensiblement Donald Trump dans sa campagne, en insultant quasiment son adversaire,
qu'on peut
estimer en opposition, enfin les oppositions sont légitimes en démocratie, mais il a été très loin dans les propos de ce virilisme.
Enfin, elle l'a traité de fasciste aussi dans d'autres,
oui,
cas. Hein,
mais
dans l'autre sens.
Sur des raisons qui sont des raisons de fond. Là, c'était aussi la forme d'un virilisme américain qui a été assumé comme tel par beaucoup de gens autour de lui. Deuxième raison. Et la troisième, c'est le droit. C'est qu'on est dans une démocratie en France et en Europe, dans des principes de droit qui ne sont pas du tout ceux des États-Unis, par exemple, et ce n'est pas un exemple tiré du hasard, c'est le racisme et l'antisémitisme en France est un délit, ce n'est pas une opinion. Aux États-Unis, on peut quasiment dire n'importe quoi, y compris des injures dans ce registre.
C'est l'amendement numéro 1, liberté d'expression totale, sans garde-fou.
Sans sanction des tribunaux.
Puisqu'on parle des différences, attardons-nous sur le clivage politique aux États-Unis. Républicains-démocrates, oui. Est-ce que ce clivage n'a rien à voir avec celui que l'on connaît en France entre la droite et la gauche ?
Alors, il peut avoir quelques ressemblances, notamment sur le degré d'implication de l'État dans la vie publique. Mais encore une fois, il y a des ressemblances qui n'en sont pas. Et je pense qu'on est loin du schéma gauche-droite en France par rapport à celui
c'est-à-dire que les
des
républicains
États-Unis.
Ne sont pas forcément de droite, enfin ils le sont, mais ça veut dire que les démocrates ne sont pas forcément de gauche. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, et surtout, la France, en fait, est divisée en 3. Ce qu'on a un peu oublié, mais c'est le cas. Il y a un bloc de droite extrême ou d'extrême droite. Il y a un bloc central qui est proche aussi de LR aujourd'hui, au gouvernement. Et il y a le bloc de la gauche elle-même assez tiraillé par deux tendances majeures. Donc cette tripartition française ne représente pas ce clivage bipartisan américain qui a fait qu'effectivement la candidate ou les candidats du Parti démocrate étaient plutôt de ce qu'on appellerait en France du centre-gauche ou presque centriste sur certains aspects, alors que la gauche française est très différente. Inversement, je pense que toutes les personnes de la droite républicaine française ne se reconnaissent pas dans les dérives populiste de M. Trump. Alors, et notamment sur la défense de nos intérêts français et européens.
Ben justement, on y vient. Un peu de temps après qu'il fut sûr que Donald Trump avait gagné, le président français a adressé un message de félicitations. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, les deux hommes se connaissent bien. Comment s'annonce donc le retour de ce duo sur la scène internationale ?
Il n'y a qu'à lire le message de félicitations à Donald Trump qu'Emmanuel Macron s'est empressé de publier sur X, le réseau social, pour avoir la tonalité de leur retrouvaille. Le président français écrit « Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes. » Sur la scène internationale, Emmanuel Macron fait partie des dirigeants qui ont déjà côtoyé Donald Trump durant son premier mandat. Il sait donc à quoi s'attendre, un avantage que le président français veut rentabiliser. Il a ainsi appelé Donald Trump très vite après l'annonce de sa victoire et son entourage a décrit leur conversation comme chaleureuse, marquée par l'antériorité de leur relation et leur proximité.
Emmanuel Macron pense donc connaître le mode d'emploi pour travailler avec Donald Trump ?
En quelque sorte, l'idée c'est d'appréhender le retour de Donald Trump avec le pragmatisme de l'expérience, sans céder au fantasme sur sa personnalité et à une apparence d'irrationalité, comme le souligne une source diplomatique qui explique qu'avec Donald Trump, vous ne savez jamais comment ça va se terminer, alors vous êtes toujours sur vos gardes. À cet état d'alerte permanent, il faut ajouter une capacité à appréhender les négociations avec l'état d'esprit du nouveau président américain qui regarde tous les sujets de manière transactionnel, autrement dit être capable de faire des deals, des accords et engager un rapport de force dans la virilité.
Dont vous parliez il y a de cela quelques instants, Jean-Philippe Moinet. Valérie Gasse, dans un rapport de force, Emmanuel Macron a-t-il les armes pour résister à Donald Trump ?
Eh bien, c'est toute la question. D'un côté, Donald Trump revient en force après un exploit électoral. De l'autre, Emmanuel Macron est affaibli depuis la dissolution et cherche comment se relancer. La proximité des deux présidents ne peut suffire à rééquilibrer un jeu si inégal. D'autant que cette stratégie basée sur le lien personnel déjà utilisé par Emmanuel Macron avait montré ses limites durant leur premier mandat respectif. Pour peser, il faut avoir du poids. Emmanuel Macron le sait et veut l'obtenir en mobilisant l'Europe derrière lui pour résister au bulldozer Trump. Il l'a dit de manière assez imagée à ses partenaires européens à Budapest cette semaine. Le monde est fait de carnivores et d'herbivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Dans ce schéma, Donald Trump est un carnivore. L'objectif d'Emmanuel Macron est de ne pas se laisser manger.
Jean-Philippe Moinet, la revue Civique. L'international ressort du domaine réservé du chef de l'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron a donc de quoi exister désormais sur la scène politique ? Alors que la donne a changé depuis les dernières élections législatives.
Alors, domaine réservé, ça peut quand même un petit peu se discuter. On voit que le Premier ministre Michel Barnier a considéré qu'il avait quelques mots à dire sur les sujets de politique étrangère, notamment européenne, qu'il connaît très bien. Mais c'est vrai qu'on voit que la bataille qui s'annonce, parce qu'elle va avoir lieu, qu'elle soit commerciale ou diplomatique, et peut-être d'autres batailles, se fera au niveau européen ou pas. C'est que les États séparément, la France séparément peut contribuer bien sûr à ce qu'elle fait, à mobiliser ses partenaires, mais on voit bien que c'est une question qui concerne l'ensemble du continent européen. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, parlait aujourd'hui du risque de poutinisation du monde. Il a souligné cela aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Et tous les leaders européens sont sur cette question. Est-ce que les États-Unis vont continuer ce qu'ils ont fait depuis 1945 à protéger l'Europe ou pas ? Et cette question-là, il y a un doute. Et donc, sur ce doute, les Européens sont effectivement, j'ai entendu l'expression, au pied du mur pour aller de l'avant, pour s'organiser de manière autonome, le cas échéant, face aux agressions extérieures et notamment celles de M. Poutine.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Avant-hier, c'est à Marseille que le gouvernement a montré sa détermination à lutter contre le trafic de drogue après plusieurs assassinats commis dans la ville. Le sénateur socialiste de Saône-et-Loire préside la commission d'enquête sur le narcotrafic et il tire la sonnette d'alarme.
La France est submergée par le narcotrafic. Nous proposons un nécessaire sursaut. Un narcotrafic qui touche désormais l'intégralité de notre territoire, jusqu'aux zones rurales, et dont le chiffre d'affaires représente chaque année entre 3 et 6 milliards d'euros. Notre pays subit les conséquences notamment d'une explosion du trafic de cocaïne depuis 10 ans, on parle d'un tsunami blanc, et de l'arrivée massive de drogues de synthèse, toxiques et peu onéreuses, qui sont sans doute le danger de demain.
Jérôme Derain, sénateur. Roland Lescure, qui vice-préside l'Assemblée nationale, préconise une certaine légalisation en la matière.
Moi, je regarde ce qu'a fait notamment le Québec sur ce sujet, en encadrant de manière extrêmement ferme. Mais oui, en légalisant la consommation du cannabis récréatif, on a augmenté la part du cannabis illégal, on a réduit la part du crime organisé, on a réduit le dit narcotrafic, qui n'a pas disparu. Attention, je vais y revenir, c'est très important. Donc je pense que ce débat va falloir l'avoir. La lutte contre le narcotrafic, elle doit être sans merci.
Et le garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la Justice, doit forcément s'exprimer là-dessus.
Nous luttons aujourd'hui à armes inégales. Et donc ce que nous avons souhaité avec le ministre de l'Intérieur, c'est de pouvoir armer l'État pour faire face à ce fléau. Et il y a donc une proposition de loi qui doit être présentée, qui sera débattue, je pense, fin janvier au niveau du Sénat. Et puis il y a des mesures immédiates à prendre. Et c'est ce que j'ai plaidé vendredi à Marseille. Je mettais l'accent davantage sur les mesures immédiates. Mmh. Et puis mon collègue de l'Intérieur mettait davantage l'accent sur la loi. Mais nous disons la même chose.
Le ministère de la Justice et de l'Intérieur travaille donc dans le même sens, dit le garde des Sceaux. Mais écoutons Éric Zemmour sur la politique de lutte contre le trafic de drogue.
Il faut s'en prendre aux trafiquants, de façon féroce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir les consommateurs. C'est illégal de consommer de la drogue, donc il faut les punir. En vérité, on sait quel est le problème en général de la délinquance en France et en particulier du narcotrafic. Le problème de la police, c'est la justice. C'est-à-dire que les policiers arrêtent les gens et les juges les libèrent. Je pense que le rôle le plus important est dévolu à M. Migaud. Et en l'occurrence, à la justice, puisque je vous répète, pour moi, le nœud gordien de toute cette histoire depuis 40 ans, c'est la justice.
Jean-Philippe Moinet, le président de Reconquête, évoque un hiatus entre police et justice. Il se trouve que ce clivage est exacerbé dans le gouvernement de Michel Barnier, Retailleau de la droite conservatrice versus Migaud, ancien socialiste.
Oui, alors c'est une distinction assez traditionnelle dans les institutions entre le tout ministère de la Justice et le ministère de la Police, qui a tendance à parfois se distinguer l'un de l'autre. En l'occurrence, ils sont allés tous les deux, Didier Migaud et Bruno Retailleau, à Marseille, accueillis par le maire socialiste de Marseille, M. Payan, pour faire des constats et surtout annoncer un plan qui contient une trentaine de mesures, donc on ne va pas pouvoir les énoncer ici, mais qui consiste à renforcer, y compris fortement, le dispositif judiciaire avec un parquet national spécifique lié à la lutte contre le narcotrafic, un peu à la mesure et à l'exemple de ce qui se fait maintenant en matière de terrorisme et qui permettrait de coordonner bien davantage les instructions et les enquêtes judiciaires dans tout le pays. Et il y aurait 40% d'effectifs de ce parquet, davantage en effectif qu'auparavant, avec aussi le renforcement de mesures répressives, cette fois-ci, concernant y compris les mineurs, avec la levée de certaines excuses de minorité, parce qu'on sait que les mineurs ne sont pas évidemment sur un même pied d'égalité que les majeurs face à la loi. Eh bien, en ce domaine, la levée de l'excuse de minorité pourrait avoir lieu plus régulièrement, en tout cas systématiquement, concernant les trafics de stupéfiants.
À propos de Bruno Retailleau et de Didier Migaud, ils constituent la vitrine de ce gouvernement. Ils sont connus, enfin en tout cas depuis leur nomination, parce qu'auparavant, on ne peut pas dire que c'était vraiment le cas. Et seulement eux.
Oui, c'est vrai que ce gouvernement s'illustre aussi par une certaine faiblesse de notoriété. Il y a quand même Sébastien Lecornu qui commence à avoir une notoriété liée, non pas à son exposition médiatique en tant que ministre des Armées, mais par la durée de son mandat de ministre des Armées. Mais ces deux-là montent en puissance parce que les sujets sont préoccupants. On sait que depuis 10 ans, il y a 5 fois plus, par exemple, de saisies de cocaïne en France. Donc c'est des sujets qui sont préoccupants, qui préoccupent d'ailleurs des maires, y compris socialistes, je l'ai dit à Marseille mais ailleurs. Et il y a effectivement, vous avez cité le sénateur qui dirige la commission d'enquête au Sénat, qui est socialiste, et qui constate que cette question prend conscience dans la vie politique au-delà des clivages habituels.
Une sorte d'unité nationale.
Il pourrait y avoir, c'est une question, et après il faut voir mesure par mesure du projet de loi qui va être en débat en janvier, mais un consensus sur cette question, loin des dissensus et des confrontations, par exemple sur l'immigration. Là, sur le sujet, il peut y avoir consensus.
Merci pour ces analyses et commentaires. Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue civique, auteur de Un journal sous influence aux éditions Les Ailes Rebelles. C'était Dimanche Politique, réalisé ce soir par Fabrice Viollet.